France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Carola Rackete doit être entendue ce matin par la justice italienne en Sicile. La capitaine du navire humanitaire, le Sea-Watch 3, est menacée de poursuites, notamment pour aide à l'immigration clandestine. On se souvient que le 29 juin dernier, elle avait accosté de force à Lampedusa, forçant le passage aux gardes-côtes italiens, permettant le sauvetage et le débarquement de 40 personnes. La question des migrations est toujours brûlante pour l'Europe, on le voit, plus que jamais mise face à ses responsabilités et à ses valeurs. Même si de manière générale, les statistiques des arrivées cette année sont orientées à la baisse. On note, d'après une source européenne citée ce matin par l'agence France-Presse, une accélération des traversées ces dernières semaines. Peut-être, d'après cette source, parce que les gardes-côtes libyens sont en ce moment moins actifs. Hier encore, 277 migrants ont dû être récupérés en mer par les secours maritimes espagnols et marocains en mer d'Almoran et une femme est décédée à bord des embarcations secourues. Selon l'OIM, pour ne donner qu'un simple autre chiffre, 682 personnes sont mortes en Méditerranée depuis le début de cette année 2019 et l'Europe, face à cette question, est toujours accusée de fermer les yeux, de criminaliser ou au moins de freiner drastiquement les ONG et l'Europe se montre incapable de s'organiser. Avec nous ce matin pour évoquer toutes ces questions, Antoine Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes marin sauveteur, ex-responsable des opérations maritimes pour l'Aquarius et à vos côtés, Smaïn Lacher, bonjour à vous.
Bonjour.
Professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, auteur l'an dernier de L'essai croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, paru chez Gallimard. Notez que nous serons rejoints tout à l'heure par Julien Reckmann, qui est chef de la mission Libye de Médecins sans frontières. Il se trouve actuellement en Tunisie. Commençons, si vous le voulez bien, par évoquer le cas de Carola Rackete, dont l'Italie va essayer de faire un exemple pour établir une jurisprudence. Antoine Laurent ?
Oui, depuis l'élection du nouveau gouvernement italien l'an dernier, on sait que ça a été un peu une surenchère politique pour convaincre la population, l'électorat, que la crise migratoire, comme ils aiment à l'appeler, est prise en main et que les choses sont sous contrôle et qu'enfin, soi-disant, ils vont pouvoir ternir les flux. Cette surenchère sur l'Aquarius, nous, on l'a vécu l'an dernier, puisque ça a été un des premiers bateaux à être stoppé à l'entrée des ports italiens. Là, on passe encore une nouvelle étape. Malheureusement, le Sea-Watch a dû forcer la main, forcer les autorités à accepter de faire ce geste humanitaire qui était nécessaire. Nous, on y avait pensé, hein, sur l'Aquarius, ça faisait partie de nos scénarios, mais c'était vraiment le scénario ultime de dernier ressort. Heureusement, on n'a pas été jusque-là.
Là, il faut dire qu'il y a eu 15 jours qui se sont passés, pendant lesquels, évidemment, l'équipage et les passagers, les migrants, étaient évidemment soumis à rude épreuve.
En effet, les ONG, elles connaissent le droit, elles essayent de le respecter au maximum jusqu'à ce que les autorités, finalement, elles-mêmes, ne le respectent plus. Et après 15 jours, ce qui est quand même un temps extrêmement long, ils ont dû en plus vivre une tempête pendant ces 15 jours. 15 jours sur un petit bateau, avec certes 50 personnes, ça paraît pas énorme, mais 50 vies qui en plus viennent de passer par la Libye. On en parlera peut-être tout à l'heure sur les conditions de détention élevées en Libye qui sont absolument désastreuses. C'est à un moment donné, on est obligé de forcer les choses et pour des raisons humanitaires, de rentrer dans un port.
Mmh. C'est là que la bataille va se jouer, hein, Antoine Laurent. Alors, bataille politique ou juridique sur qui, le premier, entre le Sea-Watch 3 et les autorités italiennes, ont franchi l'inacceptable.
Ça fait déjà quelque temps que les autorités italiennes ou européennes ont franchi quelques limites, notamment sur le droit maritime et même sur le droit des réfugiés, même si le droit s'applique difficilement en haute mer. Mais du temps de l'Aquarius, les autorités étaient déjà dans le déni. Là, aujourd'hui encore, il y a par exemple pilotes volontaires, les Français qui essayent de faire de la recherche aérienne au large de la Libye ont beaucoup de mal à solliciter l'aide des autorités européennes pour organiser des opérations de sauvetage. À chaque fois, ils vont décharger ça sur la Libye, qui n'a pas du tout les capacités adéquates. Elles ont été financées à coups de millions d'euros par l'Europe, mais pour l'instant, leurs moyens de sauvetage ne sont pas du tout suffisants. Et surtout, le pire, c'est qu'on, pour l'instant, ça reste toujours inacceptable de renvoyer des gens en Libye, parce que leurs conditions de détention sont atroces. Donc, ce droit, il est déjà bafoué depuis bien longtemps.
Le droit de la mer, il dit quoi, Antoine Laurent ? Il dit que tout navire mis en face d'une embarcation en difficulté doit intervenir. Il y a même une obligation de recherche, ça va encore plus loin que ça, pour emmener les personnes rescapées en lieu sûr. Le lieu sûr, ça peut pas, c'est ce que vous nous dites, être la Libye. En l'occurrence, est-ce que c'était bien l'Italie, le premier lieu sûr disponible pour le Sea-Watch 3 ?
Oui, le droit est assez clair et puis il est de bon sens. Hein, c'est vraiment avoir une obligation de moyens pour les autorités et pour les navires qui circulent dans la zone. Quel que soit le navire de commerce, un navire militaire ou de plaisance. de porter secours à toute personne en danger et pas forcément qui a, pas forcément en détresse au sens officiel du mot. C'est vraiment juste si on a une supposition comme quoi les personnes sont en danger, on doit les secourir et les ramener au plus vite dans un port sûr. Il n'y a pas vraiment de notion de distance, mais c'est vraiment au plus vite pour qu'elles puissent être prises en charge de manière efficace. La Libye ne l'est pas parce qu'ils n'ont pas les facilités médicales, parce qu'ils sont pris, ils sont arrêtés, ils sont mis en détention et ensuite sont torturés, revendus sur le marché de l'esclavage. Donc ça paraît complètement impensable de renvoyer des gens dans ce pays. Donc évidemment, Lampedusa qui est pas loin, Malte aussi pas très loin non plus, la Sicile, il faut naviguer encore, mais c'est pas bien loin, restent les ports les plus logiques.
On entend ces derniers temps que certains bâtiments de la marine marchande en viendraient, confrontés à ces difficultés, à contourner les routes principales de migration. Est-ce que vous le confirmez ça, Antoine Laurent ?
Alors sur la région Méditerranée centrale, c'est pas tout à fait vrai, puisque le circuit majeur entre Suez et Gibraltar passe très au nord, donc, alors que les détresses se situent principalement devant la Libye, à quelques dizaines de kilomètres des côtes. Donc le flux principal ne passe pas par là. Par contre, il y a quelques navires, en effet, qui vont vers la Libye ou qui travaillent autour des plateformes pétrolières en face de la Libye, qui ont dénié plusieurs fois les détresses.
Ouais. J'ai rien vu, j'y vais pas, je suis pas responsable.
On n'y va pas, ou alors on appelle les Libyens en leur demandant de venir, mais je n'agis pas, alors que souvent la détresse est urgente et il est impératif d'agir. Mm-hmm.
C'est une conséquence indirecte, finalement, de cette mécanique de harcèlement, de criminalisation des ONG que vous venez de nous décrire.
En fait, le comportement des cargos, il est assez illustratif. C'est que l'Europe s'est rétractée depuis 3-4 ans, progressivement. Maintenant, on n'a quasiment plus aucun moyen. Il n'y a plus que des avions qui circulent de l'Union européenne, mais et quelques navires militaires qui n'agissent quasiment plus sur le sauvetage. Et donc, évidemment, quand on se rétracte, après, les ONG ont de plus en plus de travail, et c'est pour ça qu'elles ont dû avoir plus de personnes à secourir. C'est pas un effet d'appel d'air, hein, c'est juste que personne ne le faisait, donc elles ont dû le faire. Maintenant que les ONG ne sont quasiment plus là, il y en a qui sont en séquestre en Sicile, en Espagne, etc., et il ne reste plus que les cargos. Sauf que les cargos, ils ne sont pas là pour ça, ils n'ont pas les capacités pour le faire.
À long terme, j'espère que l'Union européenne modifiera sa politique et que les personnes, en particulier les réfugiés, auront la possibilité de traverser les océans en toute sécurité, de sorte que le sauvetage civil ne sera plus nécessaire. Le navire est actuellement confisqué pour la collecte de preuves. Dès que possible, après cette deuxième audience, nous demanderons la main levée de l'immobilisation du navire et nous espérons pouvoir repartir en mission très bientôt. À court terme, nous espérons toutefois que la criminalisation des sauveteurs cessera afin que ceux qui veulent aider les personnes dans le besoin puissent le faire sans craindre de risquer une peine de prison.
Carola Racquette, donc la capitaine du Sea-Watch 3 qui s'exprimait il y a quelques jours, ça semble assez mal engagé, hein, cesser la criminalisation, comment vous voyez ça Antoine Laurent ? On posera la question aussi à Smaïn Lachère à vos côtés.
Pour moi c'est un gros travail de débat politique, essayer de retrouver un sens à la solidarité, retrouver un amour pour l'altruisme et de réaccepter l'altérité, je crois que c'est... Malheureusement, on a fait un focus sur ces ONG qui sont devenues un bouc émissaire de la crise migratoire, comme on l'appelle. Moi, j'appelle crise migratoire, c'est une crise politique. Hein. Ça n'a rien à voir avec...
Crise de l'asile, voilà.
Ça n'a rien à voir avec les personnes en tant que telles qui, elles, en tant que soi, pour moi, ne posent pas un grand problème. Mais c'est plus une crise politique, de crispation dans les discussions.
Hier soir à Helsinki, quelques ministres européens se sont retrouvés en amont d'une réunion qui est prévue ce soir pour tenter de trouver des solutions d'urgence, mettre en place un mécanisme de solidarité, encore un, on peut dire. Ça veut quand même dire qu'au moins le constat est fait. Antoine Laurent, il faut aller plus vite dans la prise en charge des bateaux à la dérive. Cette question du temps de réaction, elle est déjà prise en compte.
Oui, quoi faire ? C'est simple. C'est évidemment avoir des moyens de sauvetage dédiés pour du sauvetage en mer, des professionnels, parce que moi qui ai passé plusieurs mois sur l'aquarelle, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué de secourir des gens qui sont dans une telle situation de détresse. Et ensuite, les envoyer dans un port sûr proche rapidement, que ces personnes puissent être ensuite renvoyées dans d'autres pays européens le plus vite possible, parce que Lampedusa, c'est minuscule, hein, je ne sais pas si vous avez été, mais c'est tout petit. Malte aussi, c'est extrêmement petit, ils n'ont pas du tout les capacités d'accueillir des gens longtemps. Et pour que, surtout, que ces navires de sauvetage dédiés puissent retourner en mer très rapidement et ne pas aller à l'autre bout de la Méditerranée, comme la Corus a dû le faire, et même d'autres navires ont dû le faire pour aller en Espagne, par exemple. Et qu'ensuite, et aussi que les personnes qui sont renvoyées dans différents pays européens ne s'entassent pas dans des endroits où du coup les autorités n'ont elles-mêmes plus non plus les moyens de s'occuper de tout le monde, donc l'intégration est quasi impossible, le traitement des demandes d'asile, le respect de leurs droits est quasi impossible pour des raisons quasi logistiques. C'est même plus là une histoire de solidarité. C'est logistiquement, ce n'est pas possible. Donc, il faut que les gens soient répartis sur le territoire européen, qui est énorme. On est 500 millions d'habitants. Je pense qu'on peut se permettre de s'organiser. Et c'est une fluidité qu'il n'y a plus, qui existait un petit peu quand même il y a quelques années. Depuis l'élection du gouvernement italien, c'est terminé. Mais il y a une bonne volonté là, si c'était le cas. Le gouvernement allemand a annoncé qu'il était prêt à avancer cette question avec les pays volontaristes. La France aussi est quand même assez à bien avancé. Oui.
Ouais, Paris et Berlin veulent mettre en place une coalition des pays volontaires. Ouais, on verra comment ça va se passer. Smaïn Lacher, crise migratoire, crise plus politique de l'asile. Vous qui êtes sociologue, quel regard vous portez sur cette question-là?
Alors moi j'ai beaucoup de difficultés avec la notion de crise. Tantôt c'est une crise migratoire pour les uns, pour les autres c'est une crise de l'asile. Il y a crise, si on voulait être un tout petit peu rigoureux, il y a crise quand il n'y a plus de consensus sur la définition légitime. Alors, sur l'asile, il n'y avait pas de crise dans les années 50, 60, tout simplement parce que les demandeurs d'asile étaient très peu nombreux. Et puis, dans les années 70, les demandeurs d'asile venaient de pays où il était effectivement impossible de vivre lorsque l'on était un militant antifasciste ou un dissident des pays de l'Est. Donc, la question de l'étranger a toujours été une question qui a soulevé des controverses, qui n'a jamais fait l'unanimité, et aujourd'hui certainement moins que hier. Donc, la question de l'immigration est un fait historique. C'est très important de le rappeler. C'est pas une richesse, c'est pas un problème de crise. C'est un fait historique avec lequel les États doivent faire face.
Mais quand ils ne le font pas, c'est qu'il y a une crise, du coup, Smaïn Lacher.
Non, quand ils le font pas, c'est qu'ils résistent. C'est qu'ils résistent parce que ce sont des États, et par définition, les États pensent, à tort ou à raison, qu'ils doivent avoir le dernier mot sur ces questions-là. Et si on criminalise tant, en particulier depuis un certain nombre d'années, si on criminalise aussi intensément, c'est parce que vous avez deux points de vue. Vous avez le point de vue de ceux qui pensent qu'on ne peut pas laisser les gens mourir, que ce soit en mer ou ailleurs sur Terre. Et puis vous avez le point de vue de l'État qui pense qu'il est absolument souverain et que dans ses eaux territoriales ou que sur son territoire national, c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Et je rappelle simplement que quand les États veulent s'asseoir sur le droit, personne ne peut les empêcher de s'asseoir sur le droit. On l'a vu à de multiples reprises, et le Sea-Watch d'ailleurs n'est qu'un épisode de plus dans une série qui a au moins pas loin de deux siècles de bateaux qui voulaient qui transportaient des gens qui demandaient protection et qui ne l'ont pas eu.
On verra ce que dit parfois. On verra ce que dit la justice italienne face à Carola Rackete aujourd'hui. Oui. L'Italie va bien devoir aussi se soumettre probablement à sa justice. En tout cas, la politique italienne va bien devoir se soumettre à sa justice.
Probablement.
Espérons-le, en tout cas.
Espérons-le.
Dans un cadre d'état d'ordre.
Espérons-le. J'imagine. Je ne crois pas commettre une grossière erreur de perception, la tête de Salvini quand les Allemands lui ont demandé de libérer Carola Rackete, les 40 migrants ont été débarqués à Lampedusa. Je pense que pour quelqu'un comme Salvini, ça a dû être une atteinte absolument intenable, insoutenable à la souveraineté nationale.
C'est surtout une juge qui avait demandé la libération de Carola Rackete. Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, a expliqué vouloir mettre en place un nouveau pacte pour la migration et l'asile pour développer une politique humaine aux frontières de l'Europe. Ça vous fait sourire ?
Je crois franchement, oui, ça me fait sourire parce que je crois franchement que...
C'était hier, hein ?
Oui, c'était hier. Je crois que n'importe qui accède à de haute responsabilité, au moins depuis une vingtaine d'années, ne peut pas ne pas inscrire sur son agenda la question migratoire. Elle, comme d'autres avant elle, que ce soit sur le plan national ou que ce soit sur le plan régional avec l'Union européenne, bien évidemment, on ne peut pas ne pas dire que cette fois-ci, pour de bon, on va s'y mettre, et on va s'y mettre collectivement pour tenter, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs, est-ce que c'est réguler les flux, est-ce que c'est se distribuer les migrants.
Elle a donné un point, hein, c'est de mettre 10 000 agents à Frontex un peu plus vite que prévu, d'augmenter la force Frontex un peu plus vite que prévu. Elle a donné déjà
oui,
des pistes.
Probablement que, probablement que ça se fera si les États sont d'accord. On verra si, probablement aussi que ça va ralentir les flux, ça ne les arrêtera certainement pas, et encore moins aujourd'hui. Qu'hier, et il n'est pas sûr du tout que l'augmentation des effectifs de Frontex puisse endiguer ce que les États appellent l'envahissement ou le déferlement de flux migratoires.
Quand vous dites on ne peut pas ne pas prendre en compte avec des mots, avec des déclarations purement politiques, sans doute avec rien derrière, prendre en compte cette crise des migrants, c'est ce que fait Matteo Salvini. C'est ce que font aussi un certain nombre de dirigeants des pays de l'Est, sans aucune vergogne, Smaïn Lachin.
Oui, bien sûr.
Non, alors, il y a quelque chose qui s'est renversé depuis quelques années.
Absolument. Non, il y en a qui disent qui agissent et qui n'agissent pas, et il y en a qui disent qui
n'agiront pas et qui n'agiront pas.
Absolument. Et qui agissent. Salvini en fait partie. Les Hongrois, les Polonais, les Bulgares en font partie. Et même en Allemagne, en Angleterre et en France aussi, on agit, mais probablement avec plus de difficultés, peut-être plus de discrétion et peut-être plus d'humanisme.
Toujours cette difficulté à prendre en compte le phénomène historique dont vous parliez tout à l'heure. La migration, c'est historique, c'est là et on n'arrive pas à s'en saisir.
Oui, parce qu'il y a des parties du monde qui se sont installées depuis maintenant de nombreuses années dans des chaos. Et la famine, les guerres civiles, l'insécurité, ça ne produit que des déplacements de population. D'abord des déplacements de population interne, puis des déplacements de population dans les pays limitrophes, et puis ce que le HCR appelle les mouvements secondaires, des gens qui lorgnent vers l'Europe et tentent de rejoindre le continent européen.
Antoine Laurent.
C'est vrai que, le phénomène migratoire est extrêmement ancien. Je pense qu'il date du début de l'humanité, même avant l'humanité. Et aujourd'hui, si les pays de l'Est, si on pense à la Hongrie, la Pologne et maintenant l'Italie, se mettent à être aussi réticents à accueillir des migrants, à mes yeux, c'est surtout une histoire de stratégie politique. C'est vraiment, on prend les migrants pour des boucs commissaires, ils sont responsables de tous les problèmes de la société. Et puis, parce que ce sont quand même, la plupart d'entre eux, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont des discours très simplistes, populistes, entre guillemets. Ils vont utiliser les migrants comme un bouc émissaire à tous ces problèmes. Donc, ce sont aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que ce sont les seuls à s'approprier le sujet. Ils le font de cette manière-là, tous les autres. Et moi, je mets une responsabilité énorme sur le reste des responsables politiques, démocrates, républicains, qui ne sont pas capables de s'approprier le sujet proprement et qui vont suivre cette analyse de l'extrême droite sur les migrants, qui est fausse, de dire que les migrants posent tous les problèmes. C'est faux. Et ils vont y répondre de manière purement sécuritaire. Ce que vient de dire... La future présidente, possible présidente de la Commission européenne, c'est on va augmenter les moyens de Frontex, qui est quelque chose, c'est un long projet, de vouloir...
On va voir Dublin aussi.
Alors Dublin, c'est vrai que ça c'est quand même important de le changer, mais remonter des barrières aux frontières, rajouter des barbelés, rajouter des agents, ça ne va pas empêcher les gens d'avoir... Enfin, ça ne va pas réduire cette nécessité qu'ont les gens de fuir parce qu'ils ont... derrière eux la mort qui les poursuit. Donc à un moment donné, il faut trouver une solution beaucoup plus humaniste qui ne soit pas uniquement sécuritaire.
Puis tout le monde le reconnaît en privé, que c'est tâche impossible d'ériger des barrières à longueur de journée, des murs à longueur de journée. Le constat est simple et ils sont quand même relativement lucides. C'est tâche impossible et puis ça va effectivement à l'encontre d'un certain nombre de valeurs européennes.
Smaïn Lachair, Antoine Laurent, vous restez avec nous. On poursuit cette discussion sur les migrations et les réponses de l'Europe tout à l'heure, juste après le journal. On sera rejoint par Julien Reckmann, qui est chef de mission Libye pour Médecins Sans Frontières. Avec lui, on verra aussi les conséquences très directes de cette crise ou pas crise, Smaïn Lachair, mais en tout cas de cette situation en Libye pour les migrants. La suite des matins d'été à 8h19. Nous retrouvons nos invités pour parler migration. Antoine Laurent, marin sauveteur, ex-responsable des opérations maritimes pour la Aquarius, Smaïn Lacher, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Et ma prochaine question est pour vous, Smaïn Lacher. La question de la migration est aussi une question dont doivent se saisir les dirigeants africains. C'est ce qu'expliquait dans une tribune au journal Le Monde il y a 10 jours votre collègue Mehdi Alioua, qui expliquait que les responsables politiques africains courent le risque de se transformer en force supplétive des dirigeants européens si eux non plus n'agissent pas ou n'agissent pas suffisamment. Ils les accusent d'être possiblement co-responsables des tragédies en mer.
Oui, j'ai lu cette tribune. Je partage sur le fond les arguments développés. Je pense que ces questions migratoires sont en réalité des enjeux internationaux et qu'il est absolument impossible aujourd'hui de réfléchir, d'agir sur les relations internationales sans y intégrer, sans y inclure la question migratoire. Donc, la migration ou le fait migratoire ne doit pas être réduit simplement à de la circulation, à des flux, à des morts, à des chiffres, mais on doit penser ce lien indissociable entre faits migratoires et relations internationales.
On va retrouver en direct de Tunis et par téléphone avec nous Julien Reckmann, comme promis. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Vous êtes chef de mission Libye pour Médecins Sans Frontières et vous nous parlez de Tunisie où vous vous trouvez actuellement pour illustrer et pour nous démontrer les conséquences qu'ont ces hésitations, ces tergiversations, ces problèmes politiques en Libye. On en a parlé tout à l'heure beaucoup avec Antoine Laurent. Vous êtes sur place. Que constatez-vous?
Oui, donc c'est un constat effroyable qui a malheureusement sans aucune conséquence été souvent documenté depuis des années maintenant. Mais c'est vrai qu'on a une dégradation des conditions de détention en Libye. Donc on a aujourd'hui un système qui consiste à vider la Méditerranée des secours européens, vider la Méditerranée des secours d'ONG, et puis à les remplacer par des gardes quotidiens qui vont chercher les gens de plus en plus loin. Donc, sous pression européenne, il y a 2 ans, les gardes quotidiens ont été sont devenus responsables d'une zone de ce qu'on appelle recherche et secours qui va de la côte libyenne jusqu'à à peu près 150 kilomètres à l'intérieur de la Méditerranée. Et donc, ils vont chercher des gens de plus en plus loin. En réalité, c'est plus du tout ce qu'on appelle du secours, mais de l'interception proprement parler. Maintenant, une fois que ces gens sont ramenés en Libye, les conditions de détention, comme je vous disais, elles ont plusieurs fois été démontrées, mais je vous donne quand même quelques idées. Dans des centres de détention où on travaille, on a moins d'un mètre carré par personne pour vivre. On a une alimentation qui est absolument insuffisante, en termes de qualité, mais même en termes de quantité. On a des femmes et des enfants qui sont enfermés, on a des personnes qui sont victimes de torture. Donc tout ça pour dire que les secours en Méditerranée, c'est pas simplement qu'on sauve des vies en Méditerranée, mais c'est aussi qu'on sauve des vies en ne ramenant pas des gens en Libye. On ne comprend pas d'où on est, nous, en travaillant en Libye, comment après tout ce qu'on sait, après, maintenant que la Libye est tout à fait officiellement en état de guerre avec l'assaut sur Tripoli, on ne comprend pas comment ce système qui consiste à pousser les gardes-côtes libyens à ramener les gens peut perdurer. Comment ce système ne peut pas être en tout cas suspendu le temps du conflit et trouver une solution intermédiaire. On a aujourd'hui 5800 personnes qui sont coincées dans ces centres de détention. Il y a 2 semaines, on a eu 53 morts directement victimes d'un bombardement sur ces centres dans lesquels ils sont coincés, dans lesquels ils ne peuvent pas s'enfuir. Et juste pour vous donner une idée, on a d'autres centres dans lesquels les gens meurent de tuberculose. On a un autre centre de 800 personnes où depuis septembre de l'année passée, on a eu entre septembre et avril, on a eu 22 morts uniquement de tuberculose. Voilà.
Est-ce que vous nous confirmez, Julien Reichmann, cette information donnée ce matin par l'agence France-Presse qui cite une source européenne faisant état d'une moindre activité en ce moment des gardes-côtes libyens qui ferait remonter sur ces derniers jours ou ces dernières semaines le nombre d'embarcations à destination de l'Europe?
Oui, alors bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gardes-côtes libyens aujourd'hui sont directement impliqués dans le conflit. Hein, depuis plusieurs semaines, et encore hier, les gardes-côtes ont annoncé qu'ils étaient dédiés à la défense de Tripoli à partir de la mer.
Voilà, le conflit interne libyen.
Hein. Oui, conflit libyen, bien sûr. Donc évidemment, aujourd'hui, les gardes-côtes libyens sont moins actifs, mais le nombre de départs, il est aussi dû au conflit lui-même. Ouais, je veux dire, ce n'est pas que ça. Il faut quand même bien imaginer qu'on a eu 53 morts il y a deux semaines, uniquement des migrants dans l'ensemble des pensions, que le bâtiment d'à côté a été frappé une première fois, les gens ont essayé de s'enfuir, manifestement les gardes ont tiré, et ensuite le bâtiment a été proprement bombardé, et donc 53 morts et plus de 70 blessés. Donc oui, le nombre de départs aussi, il est dû à la guerre. C'est pas cette histoire de penser qu'on peut déléguer la protection des frontières européennes à un pays en guerre est totalement illusoire.
Merci Julien Reichmann, chef de mission Libye pour Médecins Sans Frontières. Merci beaucoup d'avoir accepté cette liaison en direct avec nous depuis Tunis où vous vous trouvez en ce moment. Alors, Smaïl Lacher, une réaction à ce qu'on vient d'entendre?
Les conditions de départ, d'après le témoignage, sont presque exclusivement dues à la guerre, mais il y a aussi d'autres conditions qui participent au départ. La météo, si elle est favorable ou non favorable, puisqu'il faut aller en mer, trouver des passeurs, trouver des ressources. Est-ce que la santé permet de partir dans des conditions extrêmement difficiles? Et puis, surtout, vraiment en un mot, je crois que la Libye n'est plus un pays. Je crois que la Libye n'est plus un pays qui constitue une société où c'est véritablement la guerre de tous contre tous. Et on comprend que les subsahariens, très majoritairement, veuillent partir. Et le témoignage que nous venons d'entendre le dit, et c'est un aspect extrêmement important, les gardes-côtes ne sont pas seulement des gardes-côtes, ce sont aussi des partisans, c'est-à-dire des gens qui font la guerre à d'autres Libyens.
Des partis au conflit interne libyen. Antoine Laurent, est-ce que face à toute cette situation, il faut inventer, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire, la question est peut-être mal tournée, mais un nouveau militantisme, un nouveau type d'intervention, notamment sur la mer en Méditerranée? C'est le Sea-Watch. Hein,
il y a une particularité en mer, c'est qu'on a toute liberté de circulation, c'est le droit maritime, au-delà des eaux territoriales bien sûr, et on a des obligations de secourir des gens, et le droit qui s'applique est le droit du pavillon. Il n'y a pas cette souveraineté territoriale que les ONG comme MSF doivent faire face lorsqu'ils vont au Congo ou en Afghanistan. Et donc il y a une espèce d'espace dans lequel il y a aussi un principe majeur qui prédomine, c'est la sécurité en mer, et donc la solidarité en mer. Et c'est comme ça, d'ailleurs, SOS Méditerranée, pour qui j'ai travaillé, c'est basé là-dessus, sur ces fondations. On est là pour faire appliquer un principe qui s'est transcrit dans un droit, déjà depuis bien longtemps, d'ailleurs depuis le temps du Titanic, où il y avait des migrants européens qui partaient aux États-Unis et qui sont morts noyés.
Un peu moins de 100 ans.
Voilà, un peu moins de 100 ans, exactement. Et aujourd'hui, on se base toujours là-dessus. Et les procédures qui sont faites pour ça, ça marche très bien. On sait très bien s'en servir. On est très bien organisé pour cela. Ce qui est en train de se passer, c'est vraiment de bafouer complètement, non pas seulement le droit, ce qui est déjà quand même malsain.
Signé par les États.
Mais c'est aussi, on revient sur des principes fondamentaux qui ont fait notre cohésion, qui ont fait nos valeurs européennes. Et la suite, c'est quoi? On va finir par avoir peur de notre voisin. On est en train d'externaliser nos frontières pour aller, comme disait tout à l'heure, donner la responsabilité à des militaires qui sont occupés aujourd'hui à autre chose, notamment à faire la guerre, pour gérer des personnes qui sont en détresse, qui ont qui doivent absolument recevoir une assistance humanitaire, que ce soit en Libye ou ailleurs. On peut très bien les mettre dans un autre pays pour les prendre en charge. Et si possible, ceux qui sont légitimes à recevoir une protection internationale, parce qu'il y en a en Libye. On est en train de dire, non, ce ne sont que des migrants économiques. Non, il y a en Libye des gens qui ont un papier du UNHCR et qui ont la légitimité de recevoir une protection. On se doit de respecter la dignité de ces gens, au moins.
Les nouveaux modes de militantisme, Antoine Laurent, là-dessus j'aimerais vous entendre, le Sea-Watch 3 en est un exemple. Il y a énormément d'associations, d'ONG qui sont en train de lever des financements et ils ont plus de facilité peut-être maintenant qu'avant, en raison notamment des différents scandales et de l'arrestation aussi de Carla Rackete par exemple. Est-ce que ça c'est une bonne façon de faire? Ça va morceler les interventions mais ça peut contourner les frilosités d'États européens?
C'est une bonne façon de faire. C'est une obligation. Ils sont bien obligés de le faire, mais ils ne devraient pas avoir à le faire. Et c'est là la tristesse de cette histoire. C'est que des gens meurent et que des citoyens européens qui s'engagent se sentent obligés de prendre le relais des États parce que les États ne veulent pas s'y atteler. Et c'est là où il y a une tristesse à condamner.
Merci à vous. Merci Antoine Laurent, marin sauveteur, ex-responsable des opérations maritimes pour l'Aquarius et SOS Méditerranée. Merci aussi à Smaïn Lacher, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Je rappelle la parution de votre dernier essai l'an dernier chez Gallimard. Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile. Merci à tous les deux.